bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'Union européenne se dit prête à accorder au Royaume-Uni un court report du Brexit à condition que les députés britanniques votent l'accord de divorce négocié avec Theresa May. La première ministre britannique acculée à Londres et sous pression de Bruxelles avant un Conseil européen aujourd'hui.
Et puis Catherine, à 2 mois des élections européennes en France, les chefs de parti se sont rassemblés hier soir pour débattre.
L'opposition liguée contre l'exécutif et contre la majorité, c'était hier soir sur BFM TV, compte rendu dans un instant. À la une également, ces psychiatres, ces soignants qui appellent à un printemps de la psychiatrie pour pouvoir soigner correctement les familles de patients, les usagers, ils appellent à manifester aujourd'hui à Paris.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, faut-il se fier au classement des lycées? Nous en parlerons avec la secrétaire générale du SNES FSU, Frédéric Rollet.
Pour l'opposition travailliste, Theresa May n'a pas de plan B sur le Brexit et elle mène le Royaume-Uni au bord du précipice. Pour les libéraux démocrates, la première ministre britannique n'écoute que les extrémistes, les partisans d'un Brexit dur et même au sein de son camp conservateur, un député dit avoir honte de se voir demander tout soutien au gouvernement. Theresa May n'arrive donc toujours pas à rallier le Parlement britannique à sa cause et elle n'a donc plus d'autre choix avant de défendre aujourd'hui son plan pour le Brexit devant les 27 dirigeants européens à Bruxelles, avec un éventuel report jusqu'au 30 juin du Brexit. C'est le peuple britannique que Theresa May a décidé de prendre à témoin hier soir à la télévision, accusant les députés à Londres d'être responsables du chaos actuel. Allocution depuis le 10 Downing Street, suivi à Londres par Antoine Gignot.
Le regard planté dans l'objectif de la caméra, c'est aux Britanniques qu'elle s'adresse.
You're tired of the infighting.
Vous en avez marre des luttes intestines, des jeux politiques et des querelles procédurales obscures. Marre de voir les députés ne parler que du Brexit alors que vous avez de vraies préoccupations qui concernent les écoles de nos enfants, les services de santé et les agressions au couteau. Je suis d'accord.
La première ministre tire ensuite à boulet rouge sur les députés incapables de s'entendre tout en leur ordonnant de valider aussi vite que possible le texte de l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Inacceptable, répond Dominique Grieve, élu de la majorité.
Je n'ai jamais eu aussi honte d'appartenir au Parti conservateur. La première ministre passe le plus clair de son temps à critiquer la conduite des parlementaires. Elle ne s'arrête jamais, histoire de se demander si ce n'est pas en fait la manière dont elle dirige ce gouvernement qui a contribué à nous mettre dans cette situation.
Dans les faits, les unionistes nord-irlandais continuent de s'opposer au texte. Les conservateurs restent divisé, l'opposition est désunie. Sur le site du Parlement, une pétition pour demander l'annulation du Brexit et l'abrogation de l'article 50 a été créée hier. Elle a recueilli en moins de 24 heures plus de 180 000 signatures.
Theresa May coincée politiquement à Londres, pressée aussi par Bruxelles à quelques heures de l'ouverture du Conseil européen où va se jouer l'avenir du Brexit. Donald Tusk a posé ses conditions avant tout report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Le délai de grâce demandé par Theresa May au-delà du 29 mars jusqu'au 30 juin ne sera accordé que si le Parlement britannique vote dans les prochains jours le texte négocié entre Londres et Bruxelles. Un accord rejeté 2 fois par les députés britanniques. De son côté, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que la France autoriserait un report du Brexit si et uniquement si le Royaume-Uni renonçait à participer aux élections européennes. L'Europe dans l'incertitude, le spectre d'un Brexit sans accord ressurgit. Ce séisme ferait perdre plusieurs points de PIB à l'économie britannique dans les prochaines années, affirme la Banque britannique, la Banque de Londres. Réplique ressentie également sur le continent de 0,6 à 1,7% du PIB français, selon l'INSEE, l'équivalent de la moitié de la croissance annuelle en France, à cause notamment du relèvement des droits de douane. L'Allemagne perdrait, elle, 1% de PIB. Et à 2 mois des élections européennes à Bruxelles, la droite européenne a décidé de sanctionner à minima Viktor Orban, le premier ministre hongrois, à qui la droite du Benelux, de Scandinavie, du Portugal notamment, reprochait des dérapages populistes contre Bruxelles ou l'immigration. Viktor Orban et son parti, le Fidesz, alliés de poids avant le renouvellement du Parlement de Strasbourg, n'ont donc pas été exclus du Parti populaire européen, seulement suspendus des rangs de la plus grande formation politique à Strasbourg et Bruxelles, où nous retrouvons Lex Milotin.
J'aurais pu partir aujourd'hui, lance Viktor Orban après la réunion du PPE. Le Premier ministre hongrois a finalement accepté la sanction décidée par le groupe, la suspension temporaire de son parti Fidesz. En conférence de presse, le Premier ministre explique fièrement « Nous sommes un parti puissant au sein du PPE. Nous avons gagné plusieurs élections. Cela aurait été curieux de nous mettre dehors ». Le PPE n'a donc pas opté pour une exclusion définitive, mais une suspension, en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. La droite européenne demande notamment le respect de l'état de droit et le retrait de la campagne d'affichage contre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et Viktor Orban ne comprend pas en quoi elle pose problème.
Si ça vous intéresse, je peux vous dire comment on mène une campagne contre quelqu'un. Là, ce n'était pas le cas. Ce serait vraiment différent, croyez-moi.
En plus de la suspension, le PPE a voté la mise en place d'un comité de surveillance. Ce comité rendra un rapport d'ici l'automne pour dire si le parti Fidesz respecte désormais les règles et les valeurs du groupe. J'espère que ces personnes, ces sages, vont s'intéresser aux faits, venir prendre le pouls en Hongrie, voir ce qui se passe vraiment. Je pense que ce rapport sera positif, a conclu très confiant Viktor Orban.
Laxmi Lotha à Bruxelles pour France Culture. Elle avait promis un durcissement de la législation sur les armes après le carnage de Christchurch. La première ministre de Nouvelle-Zélande tient parole. Elle a décidé d'interdire les armes semi-automatiques et les fusils d'assaut, le type d'armes utilisées par le terroriste qui a abattu il y a près d'une semaine 50 personnes dans deux mosquées donc de Christchurch. Pourquoi les États-Unis, régulièrement frappés par des tueries, ne durcissent pas eux aussi leur législation sur les armes? C'est la question que posent le Washington Post et le New York Times. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. Le recours aux tests osseux sur des mineurs étrangers isolés est-il conforme à la Constitution?
Les sages rendent leur décision aujourd'hui sur ces examens controversés réalisés pour déterminer si un migrant est mineur ou majeur avant de traiter sa demande d'asile. Des demandes examinées parfois lors d'audiences vidéo en test actuellement à Nancy et à Lyon. Pratique déshumanisante et pénalisante selon les avocats de demandeurs d'asile. On y revient dans le prochain journal dans une vingtaine de minutes. Le procès de Bernard Tapie se poursuit au tribunal correctionnel de Paris. L'homme d'affaires est poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage controversé avec le Crédit Lyonnais après la vente d'Adidas. Un arbitrage contesté où le PDG d'Orange, Stéphane Richard, ex-directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde, s'est attaché hier devant le tribunal à minimiser son rôle, Florence Turme.
Pendant près de 6 heures d'audition, Stéphane Richard s'est posé comme un simple exécutant des décisions gouvernementales, en l'occurrence celle de sa ministre de tutelle Christine Lagarde, reconnue coupable de négligence mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République. Voix ferme, discours rodé, un dossier orange posé sur le pupitre devant lui, le prévenu répète « Je suis fonctionnaire, mon rôle s'est limité à celui d'un directeur de cabinet, pas davantage. » Face au tribunal, Stéphane Richard livre à la fois les questions et les réponses. Est-ce que j'avais une antériorité avec l'affaire ? Non. Une antériorité avec Bernard Tapie ? Non. Est-ce que j'ai interféré dans l'arbitrage ? Non. Un arbitrage dont il reconnaît pourtant l'échec final ? Bien entendu, ce n'est pas une bonne décision puisque l'État a perdu. Oui, j'ai été étonné, surpris, déçu, attristé du contenu de cette sentence, poursuit-il, mais c'est tellement facile de refaire l'histoire. Le procureur insiste, vous dites avoir fait votre travail, mais pensez-vous avoir bien fait votre travail ? L'arbitrage que vous avez permis s'est révélé frauduleux et Christine Lagarde considère que vous y étiez favorable. Stéphane Richard se crispe, durcit le ton puis revient sur sa ligne de défense. Toise le magistrat, vous pensez que c'est une personne qui aurait pu être troublée par mon avis ? C'est elle, la juriste professionnelle. Vous me taillez, conclut-il, un costume un peu trop grand pour moi.
Une nouvelle journée clé dans l'affaire Benalla. Le Sénat va dire ce matin s'il saisit la justice non seulement du cas de l'ancien collaborateur de l'Élysée pour des soupçons de faux témoignages, Alexandre Benalla mis en cause avec son ami l'ancien gendarme Vincent Crase. Le Sénat va également trancher sur les cas de trois hauts responsables de la présidence, Alexis Kohler, Patrick Strodal, Lionel Lavergne, suspectés d'omission, d'incohérence et de contradiction devant le Sénat. Télescopage de l'actualité, Alexandre sur Benalla a écopé hier soir de nouvelles mises en examen pour l'épisode du selfie, le montrant avec une arme, et pour son rôle dans une interpellation mouvementée intervenue au Jardin des Plantes à Paris quelques heures avant les faits de violence de la place de la Contrescarpe en marge du défilé du 1er mai. La violence, cette fois, en marge des manifestations des Gilets jaunes et la réponse globale à la crise sociale, objet d'attaque des principaux chefs de partis de l'opposition hier soir, qui, pour le premier débat télévisé pour les européennes sur BFM TV, ont tous critiqué l'exécutif et le parti de la majorité, représenté par Stanislas Guérini, pour La République En Marche, donc, débat suivi par Rosalie Lafarge.
Sur la gestion de la crise, l'opposition parle d'une seule voix, celle de la condamnation. Laurent Wauquiez, à droite, d'abord, dénonce un chaos jamais vu et une réponse absurde.
Interdire uniquement de manifester sur la place du Capitole, mais en revanche l'autoriser dans le reste de Toulouse, vous n'aurez pas la casse sur la place du Capitole, vous l'aurez partout ailleurs. Ça n'a pas de sens.
Mais il y a bien plus grave et plus dangereux pour le socialiste Olivier Faure. La mobilisation annoncée par l'exécutif des soldats de l'opération antiterroriste Sentinelle pour les prochaines manifestations.
Mais quel symbole avec l'armée ! Quel symbole épouvantable !
Rejoint sur ce point par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont haussé le ton face à François Bayrou.
Ben, mais c'est une erreur totale de faire ça.
D'accord, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports.
Contre qui, Monsieur Bayrou, c'est dans les gares. Contre les terroristes.
Enfin, Bayrou,
on ne met pas l'armée face au peuple français.
S'il le faut, avec des mois
qui se passe après,
et des
François,
semaines
qui se
et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça.
Mais alors, on a besoin de quoi? Il faut faire baisser la température.
Et là où les patrons de la France Insoumise et du Rassemblement National plaident pour une dissolution de l'Assemblée Nationale, le président du Modem préconise, lui, d'introduire la proportionnelle. Ils font fausse route pour le chef de file du PS.
C'est quand même incroyable. C'est le président de la République qui décide de tout et c'est en fait les parlementaires qui en seraient coupables.
Sur le sujet, Stanislas Guérini de La République En Marche a eu bien du mal à exister, s'efforçant d'assurer le service après-vente de la loi anti-casseur et du grand débat national, vendu comme les solutions miracles pour sortir de la crise.
Les militaires de l'opération Sentinelle seront appelés samedi à agir lors de la journée de mobilisation des Gilets jaunes. C'est ce qu'a indiqué hier soir le Premier ministre Édouard Philippe. Ils appellent un printemps de la psychiatrie, les soignants, mais aussi les familles de patients. Les usagers appellent à manifester ce midi à Paris pour réclamer au gouvernement davantage de moyens. La psychiatrie, souvent considérée comme le parent pauvre de la médecine. Le temps de ce jeudi 21 mars, partagé une nouvelle fois entre nuages et éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera entre 13 et 17 degrés sur l'hexagone du nord au sud, jusqu'à 20 degrés dans le sud-est, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutuy. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, faut-il se fier au classement des lycées ?